L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur la parabole du Samaritain. Et nous avons toujours avec nous Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous rejoindre.
Merci pour ce temps de disponibilité, ce temps de sacrifice. Que le Seigneur te bénisse et te rende au centuple.
Amen. Que la gloire revienne à Dieu.
Avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter, Jonathan, encore une fois, à baisser la tête dans la prière et dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur.
Éternel, nous te bénissons pour ces instants. Tu as dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Laisse, Seigneur, que ces instants soient des temps de repos pour ceux qui étaient fatigués et chargés. Bénis ces temps, bénis ta parole. Accomple de puissance cette parole. Glorifie ton nom, Seigneur, car nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Que la gloire, l'honneur ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Luc 10, verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Jonathan, qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur pour nous aujourd'hui sur cette parabole du Samaritain?
Ce tome de Luc chapitre 10 nous enseigne beaucoup de choses. Il était à Jérusalem, la ville de paix, la ville où Dieu veut que nous demeurions. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. En fait, le Seigneur veut qu'on demeure là, à Jérusalem. Mais cet homme quitta Jérusalem et choisit de descendre à Jéricho. Jéricho est la ville la plus basse du monde entier, sur un plan géographique. Vous pouvez faire des recherches, vous remarquerez que c'est ainsi. Elle est la plus basse.
400 mètres, c'est ça?
380 mètres en dessous du niveau de la mer. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Mais au moins, c'est plus bas. Mais il descendit là, et il n'était pas arrivé à Jéricho, au milieu du chemin, les brigands l'ont assailli et l'ont battu. Illustrant la vie de tous les chrétiens qui choisissent de quitter Jérusalem et de descendre vers le monde du péché, attisé par la convoitise de la chair, attisé par l'appétit du monde. Le diable nous présente son monde, ses richesses à lui, pour nous donner à nous l'appétit de choisir, de quitter l'obéissance, c'est-à-dire de quitter la parole vers les ténèbres, et ensuite nous abattre. Les Philistins n'attendent que ça pour abattre Samson. C'est ce qu'ils ont fait à Samson, et c'est ce qu'ils font à tous les chrétiens qui choisissent de quitter Jérusalem et de descendre vers Jéricho. Ils sont assaillis par des brigands, les démons, par Satan. Ils assaillissent le chrétien. Et cela ne choisit pas des figures. Il n'y a pas d'exception. Que vous soyez pasteur, apôtre, prophète, qui que vous soyez.
Archibishop ou je ne sais pas.
Bishop. Tous les titres que vous voulez donner, vous donnez, c'est bon. Comme vous le voulez. Mais si vous descendez de Jérusalem vers Jéricho, les brigands sont là. Voilà pourquoi la Bible dit. Le lion, le diable, rôde autour de nous. Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pour dire que l'ennemi, il veut dévorer des chrétiens. Même moi, il veut me dévorer. Mais comprenons ces choses. Je dois rester attaché à la parole. C'est-à-dire, je dois rester à Jérusalem. Car ceux qui choisirent de quitter Jérusalem, ils ont été bannis comme Adam. qui avait choisi, lui et Ève, la désobéissance, ils ont été bannis du jardin d'Éden. Mais l'amour de Dieu est toujours là. L'amour de Dieu s'est manifesté. Voilà pourquoi il avait tué un animal et il les a revêtus de peau. En fait, ce n'est pas écrit scrupuleusement dans la Bible que Dieu avait tué un animal pour revêtir de peau.
Mais pour faire des habits avec
la peau d'animal,
il faut forcément
tuer. C'était la préfiguration de ce que Jésus-Christ allait accomplir dans ce monde. Jésus vint trouver le monde dans un état tel que l'homme avait quitté Jérusalem pour descendre. Et Jésus est venu comme l'agneau des dieux qui fait quoi? Qui ôte les péchés du monde et qui nous couvre de la nudité du péché. Ainsi, quand Dieu nous regarde, il nous considère juste. Juste. Voilà pourquoi le Samaritain, nous l'appelons Jésus de Nazareth. Parce que ce Samaritain qui est étranger est l'image de Jésus-Christ qui aussi était venu sur la terre comme un étranger. Il n'était pas de ce monde, il était du ciel. Il est venu comme un étranger pour sauver les hommes de la terre, du mal, du péché. Et quand il est venu, trouvant les hommes dans le péché, il a versé du vin. Et il a versé l'huile. D'abord, on a commencé par l'huile et du vin. Il donne son esprit. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les malades, pour consoler. Voilà, il est venu rempli de l'esprit, faisant des miracles extraordinaires. Mais après, il a donné l'esprit à ses disciples. Et aussi, écoute la parole, même quand on parle maintenant, là, il y a de ceux qui sont touchés par l'esprit directement. Ils sont convaincus que leur place, ce n'est pas de descendre à Jéricho. Mais ils se disent, non, ça c'est Dieu qui me parle, il faut que je rentre à Jérusalem. Ça, ce n'est pas l'effort de l'homme, mais c'est l'effort de l'esprit. Et j'aime bien la manière dont agit l'esprit. Lorsqu'on retourne dans les textes, là on est en train de survoler tout ce qu'on a déjà dit. Je me rappelle quand Pierre parlait à Corneille et à sa famille, on dit alors qu'il ne faisait que parler, l'esprit s'est répandu, a commencé à saisir tous les fidèles et ils étaient remplis de l'esprit. Actes chapitre 10 verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Voilà. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car il enseignait, parlait en langue et glorifiait Dieu. Donc, en fait, Pierre n'a rien fait. Il parlait seulement. Alors qu'il parlait, l'Esprit de Dieu a fait son travail. C'est comme ça qu'on reçoit des témoignages. En tout cas, quand tu parlais là, j'étais convaincu, c'est pas moi, c'est l'Esprit. Que la gloire revienne à Dieu. C'est ce que Jésus fait. Quand il parlait, les gens étaient remplis de joie. Parce que l'Esprit accompagnait le message, accompagnait la parole. Et quand le Seigneur laisse que l'Esprit puisse toucher les cœurs, c'est pour que les hommes reviennent à lui. Qu'ils regrettent leur douleur. Parce qu'il est des voies d'entendement. Et il faut l'Esprit pour amener quelqu'un à la raison. C'est pour ça que beaucoup de gens, ce que je voulais dire, beaucoup de gens se lamentent. En tout cas, je fais tout pour que ma fille change, pour que mon frère change, mais il ne change pas. C'est Dieu qui touche. Je peux parler de ce témoignage d'une femme qui avait connu l'expérience de la mort et qui est revenue à la vie. Et quand il est parti, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur l'a amené à voir l'enfer. Et là, il va dire, mais Seigneur, j'ai ma mère qui est encore dans le monde. Je prie pour elle pour qu'elle laisse sa vie de péché, qu'elle quitte Jéricho, qu'elle vienne à Jérusalem. C'est-à-dire qu'elle quitte le monde et qu'elle vienne à toi. Mais elle ne change pas. Et le Seigneur lui dit, ta prière a été exaucée. Elle va changer. Et plus tard, quand cette dame est revenue à la vie, plus tard, sa mère va se convertir 3 jours avant de mourir. Une façon, et celui qui avait prêché sa mère, c'était pas elle, c'était le petit-fils de sa mère qui va prêcher à sa mère la parole, et sa mère va se convertir. 3 jours après, elle va mourir. Parce que le Seigneur avait dit à cette femme, ta maman va se convertir, mais pour peu de temps après, elle va mourir. Mais avant qu'elle ne meure, elle va se convertir. Pourquoi j'ai relaté ce message? J'ai relaté ce témoignage juste pour dire à ceux qui nous suivent que celui qui touche le cœur de quelqu'un, c'est Jésus de Nazareth. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui peut toucher le cœur de quelqu'un et l'amener à la raison. C'est l'Esprit de Dieu qui amène la conviction. Sans l'Esprit de Dieu, l'Église de Dieu ne peut rien. Dieu nous a donné l'Esprit pour que l'Esprit nous accompagne, hein, confirme. Quand la Bible dit, il confirme la parole de ses serviteurs. Mais c'est grâce à l'Esprit qu'il accomplit des signes. Et quand le Seigneur donne son Esprit, il donne le vin, le pardon. Quand les gens sont convaincus, ils demandent pardon, ils regrettent douloureusement leurs erreurs. Vraiment, Seigneur, je vois que moi je vais aller en enfer. Le Seigneur dit, non. Je suis content parce que tu as compris que toi, dans ta voie là que tu as suivie, c'est l'enfer, mais tu reviens à moi. Mais après, le Seigneur fait quelque chose. Lorsqu'il nous donne l'Esprit, lorsqu'il nous accorde le pardon, il ne laisse pas l'homme qui est tombé entre les brigands comme ça. Il le prend, il le met sur sa monture. C'est très important. Ce n'était pas par hasard que Christ a dit ça. Il a pris cet homme, il l'a mis sur sa monture. En fait, c'est ce qui est ton souci. Être sur la monture de Jésus. En fait, quand Jésus sauve quelqu'un, il ne le laisse pas comme ça. Il le prend, il le met sur sa monture. Sa monture, c'est lui-même. Sa monture, c'est la parole. Parce que c'est sa monture. Il te prend, il te met sur la parole, sur lui-même. Parce qu'il veut que tu restes sur sa monture. Tu étais sur la monture du péché. Tu étais sur la monture des pensées des gens. Hein? Parce que tel a dit ça, non. Tel a dit ça, on doit faire ce que tel a dit. Non, maintenant tu dois faire ce que moi je dis. Reste sur ma monture, sur la parole. Dieu veut que ses enfants restent longtemps, qu'ils demeurent sur sa parole. Voilà pourquoi vous verrez souvent le verbe demeurer, revenir souvent dans la Bible, dans les paroles de Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pourquoi il veut ça? Il veut ça parce que il sait que le seul moyen qui peut garder cet homme en vie et le ramener à Jérusalem, c'est qu'il demeure. Quand il sauve quelqu'un, il le fait demeurer sur sa monture.
Quand tu parles de demeurer, ça me fait penser à la position que nous occupons en Christ. Il nous a pris par terre et il nous a mis sur son cheval. Oui. Il nous a mis sur sa place,
exactement,
sur son trône.
C'est ça.
Écoute. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 4. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est comme si, lorsque Jésus ramasse le demi-mort, il place le demi-mort sur sa monture, Dieu dit, Raph, la place que tu occupes, c'est la place que j'avais destinée pour toi, avant la fondation du monde.
Amen.
Mais tu ne peux l'occuper que lorsque tu es en Jésus-Christ.
Voilà.
Écoute, c'est pas tout. Il ajoute encore au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Le même Paul va dire, je crois, au livre de Romains, que nous sommes des co-héritiers avec Christ.
Oui.
La monture, c'est l'image. Moi, je vois la monture comme étant l'image du trône de Christ. Lui se met à côté et puis il nous met sur son trône. Au verset 13 de Éphésiens 1 toujours, il dit « En lui, vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, et tu as souvent dit le vin, l'huile, demeurez, on demeure dans la parole de Dieu. En lui, vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le fait de monter sur, le fait de s'asseoir sur la monture de Christ, Dieu nous scelle avec le Saint-Esprit.
C'est très important. Le Seigneur sauve les gens, pas pour qu'ils aillent vagabonder. Il nous sauve pour que nous soyons plus tard sur sa monture. Que nous puissions hériter de l'héritage qu'il a préparé. Nous devons garder cet héritage, comme Naboth. Naboth, c'était un juif qui avait hérité d'une vigne. Naboth, il avait hérité d'une vigne. Et un jour, un roi qu'on appelait Akab, on est dans 1 Roi chapitre 21, voulut acquérir la vigne de Naboth à prix d'argent. Naboth refusa, il dit en tout cas, je ne peux pas que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. L'héritage de mes pères. C'est dans 1 Roi chapitre 21 au verset 3. Notre héritage à nous, c'est la parole. Je suis d'accord aussi s'il faut comprendre ce verset dans un autre sens pour présenter Naboth comme Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ a accepté de mourir parce qu'en fait, Naboth a été tué.
Tout à fait.
Parce qu'il ne voulait pas perdre la vigne qu'il avait héritée de ses pères. Parce que lorsque nous lisons dans la Bible, quelque part, la vigne, c'est aussi l'image de Israël. Donc, Jésus-Christ a accepté pour Israël de mourir, mais il ne voulait pas perdre Israël. Il nous a laissé un exemple pour dire, nous aussi, restons attachés. Maintenant, là, je ne parle plus de la vigne comme Israël, mais je vois l'héritage qui est la parole. Restons attachés à la parole. Si Christ est mort pour nous, nous aussi acceptons de mourir pour lui.
Tout à fait.
C'est lui la parole. Nous devons rester attachés à la parole.
Du reste, il y a même un verset qui le dit, je crois.
Or, la parole, c'est Jésus-Christ. Oui, en Christ, nous devons accepter de souffrir. Hein? Nous devons accepter de mourir pour lui. C'est très important. Nous devons demeurer dans la parole. Monter sur sa monture, c'est rester aussi sur sa parole. Je vais lire un verset. Jean chapitre 8, versets 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il faut demeurer sur sa monture. C'est très important. Beaucoup de gens écoutent la parole, mais ils ne veulent pas demeurer. C'est très dangereux. Parce que, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, l'ennemi quitte nos vies. L'ennemi, je voulais dire, laisse nos maisons. En fait, nous sommes une maison.
Tout à fait.
Une maison est toujours habitée. Et lorsque l'ennemi, les démons, les esprits mauvais qui habitaient nos vies quittent, ils ont toujours tendance à retourner dans cette maison. Hein, je me mets à la place de quelqu'un qui avait une belle villa et qui, à force des réalités, se voit obligé de vendre cette villa. Même s'il va la vendre, même s'il arrivait qu'il la vendait, mais un jour, s'il passait par cette avenue et qu'il voyait cette villa,
il va s'en souvenir.
Il va s'en souvenir, il va dire, « Ah, ça c'était notre maison, hein. On avait l'habitude de passer ici, mais déjà tu l'as perdu. Tu auras toujours tendance à amener tes enfants, venez, je vais vous montrer notre belle villa. » Mais c'est déjà parti. C'est ça l'attitude des esprits. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Ils n'ont pas du repos loin de nous, loin de l'homme. Ils ont leur repos que dans la vie d'un homme.
Parce qu'ils détruisent.
Oui, quand ils sont dans la vie de l'homme, ils peuvent satisfaire leurs désirs à eux étant dans le corps d'un homme. Ils te poussent maintenant, va maintenant vers les prostituées, va. Alors quand tu entres et ils sont contents, ils te laissent la malédiction parce qu'en fait ils savent leur fin. Ils savent qu'ils sont destinés pour l'enfer, pour le feu, pour la géhenne, pour le lieu de où ils seront tourmentés pour les siècles et les siècles. Ils ne veulent pas aller seuls. Mais regardez. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, qui? L'esprit impur. Il la trouve vide, balayée et ornée. Ça, c'est la chose que le Seigneur ne veut pas. Il ne veut pas que lorsqu'un esprit impur sort de nous, que l'esprit impur en retournant, qu'il trouve nos vies vides, balayées et ornées. Elle ne doit pas être vide, je voulais dire. Elle doit être maintenant occupée. C'est vrai, elle peut rester balayée, ornée, mais elle ne doit pas rester vide. Il faut mettre autre chose à la place. Parce qu'elle était déjà occupée par des esprits impurs qui avaient amené toutes les impuretés. Maintenant que l'esprit impur est parti avec toutes ces impuretés et que la maison est restée balayée et ornée, il faut qu'elle soit occupée.
Par quelqu'un ou par quelque chose.
Oui. Entre nous, réfléchissons. Vous avez une belle maison. Tu laisses ta maison, tu la fermes, tu la balais, elle est propre, tu la fermes, tu pars en voyage pendant une année. Quand tu reviendras, tu ne la trouveras pas propre.
Tout à fait.
Il y aura des toiles d'araignée, tu vas te dire, mais finalement, je n'avais pas laissé ma maison comme ça. Mais c'est comme ça. Si elle n'est pas occupée, alors il y aura des cafards, il y aura beaucoup de choses, il y aura des rats. Tu risques même de trouver
tes... Si, je suis même tenté de dire, si on ne veut pas la faire occuper,
oui?
On va venir trouver des occupants qu'on ne désirait pas.
Oui, des occupants indésirables. C'est pour cela quand les esprits partent, il faut laisser la parole prendre place. C'est lui maintenant qui, entrant dans nos vies, met de l'ordre. Il ne permet pas à ce que l'impureté puisse venir. Il chasse toutes les impuretés. C'est pour cela, le Seigneur, quand il sauve quelqu'un, il le met sur sa parole, sur sa monture. Si tu ne demeures pas dans la parole, mais tu te cherches des problèmes. Tu te cherches des problèmes. C'est très important. Jésus-Christ, dans ses enseignements comme ceci, il voulait montrer comment l'homme est vulnérable. Comment nous ne sommes pas extraordinaires. Nous sommes libérés du mal. En fait, nous devons occuper nos vies. Sinon, si nous n'occupons pas nos vies, ces forces-là sont fortes. Sans Jésus, nous ne pouvons pas vaincre un démon. D'abord, un démon, c'est un esprit. Tu vas le frapper avec quel coup? C'est le nom de Jésus qui les fait fuir. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait entrer dans une synagogue et les esprits impurs, quand ils le voyaient, criaient « Qui a-t-il entre toi et nous? Hein? Nous te connaissons, le Saint des dieux. » Ils avaient peur. Ils n'ont peur que du nom de Jésus et non du nom d'un homme. Il faut que nos vies soient occupées. Ça, c'est très important. Si nos vies ne sont pas occupées, ce sera difficile. Et pour que nos vies soient occupées, montons sur sa monture. Montons sur la parole. Demeurons sur la parole. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Écoutez, le temple de l'Esprit, c'est un temple qui a la parole. Quand Pierre, on dit que Pierre c'était un temple de l'Esprit, il avait la parole. Et quand il parlait, l'Esprit venait. Et la parole, c'est-à-dire demeure dans la parole. Et l'Esprit va agiter ta vie, c'est-à-dire va te conduire vers Jérusalem, à rester à Jérusalem. Malheureusement, beaucoup de gens se comportent différemment. Je vais m'expliquer. Luc chapitre 8 nous explique comment ces gens se comportent. La parabole du semeur. La Bible dit, ce que Jésus dit au verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc le diable représente aussi les oiseaux. Les oiseaux ne sont pas toujours une bonne image. Oui, parce que quelqu'un peut dire que non, les oiseaux c'est toujours l'esprit. Mais là, l'oiseau, c'est le diable.
C'est le diable.
Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Tu vois, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Nous devons avoir des racines. Et pour avoir des racines, il faut demeurer dans la parole. Un arbre qui n'a pas de racines, est-ce que cet arbre peut subsister? Non. Un arbre a besoin des racines. C'est pour ça que j'aime bien ce que Jésus-Christ, ce que la Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 1er. Heureux, hein, celui qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne marche pas selon la voie des pécheurs, si je puis le lire exactement pour ne pas faire des erreurs.
Allons-y.
Psaume chapitre 1, verset, je commence au premier verset, et je crois qu'on va atterrir par ce passage. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Voilà l'homme qui demeure, voilà l'homme qui est sur la monture du Seigneur. Cet homme-là, au verset 3, il est dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est la parole. qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Ça, c'est très important.
Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il veut que nous demeurions dans sa parole.
Amen.
En Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. En Jésus-Christ, nous sommes des héritiers de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dans la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Dans la parole de Dieu, nous sommes richement bénis. Nous sommes, j'allais dire, même scandaleusement bénis.
Amen.
Mais nous devons rester en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu.
Amen.
Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est en ce moment en train de frapper à votre porte. Ne regardez pas les deux personnes que nous sommes, Jonathan et moi. Non, regardez au-delà des personnes que nous sommes. Voyez Christ qui vous parle au travers de ce thème, au travers de cette émission, et qui vous dit, je vous cherche pour faire de vous une source de bénédiction. Parce que la source des sources, c'est Christ.
Amen.
Et il veut faire de nous des sources de bénédiction pour ce monde.
Amen.
Mon frère, ma sœur, il vous suffit simplement de baisser la tête dans la prière et le frère Jonathan va nous conduire dans une prière de repentance, de pardon et d'acceptation de Christ. Prions.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai besoin de toi dans ma vie. Entre dans ma vie. Sois le roi de rois et le Seigneur de Seigneur dans ma vie. Règne dans ma vie. Autres choses ont régné dans ma vie. Maintenant, je t'invite dans ma vie. Pardonne mes péchés. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es un Dieu qui écoute les prières. Nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain, toujours avec Jonathan Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et demeurez dans la parole.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.